Nous vous saluons comme les membres d'une seule et même humanité, à qui l'Éternel, notre Père, donne la vraie vie, à qui Jésus, l'homme de Nazareth, donne la lumière de sa parole. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez depuis notre site internet. Ce culte a été préparé par deux de nos prédicateurs, Jean-Pierre et Olivier. Je lis donc ce matin leur culte pour vous. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus le Christ qui nous aime et nous conduit. Cette grâce, la voici proclamée avec le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Il garde mon âme. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Louons Dieu avec un autre psaume, le psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre, loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai. Toujours. Unissons-nous dans la prière de repentance avec le psaume 69. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus. Seigneur, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte. Amen. L'Éternel nous écoute. L'Éternel nous entend. À chacun de nous, il offre son pardon. Il offre l'eau pour étancher notre soif, celle d'une vie autre, nouvelle. Avec ces mots du prophète Ésaïe, écoutons le pardon de Dieu. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en vous toute chose nouvelle. Amen. Voici maintenant ce que Dieu nous appelle à faire et nous donne la force de réaliser. Dans le livre du Deutéronome. J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours. Amen. Avant de lire les Écritures, je vous invite à un temps de prière, afin qu'elles deviennent en chacun de nous des paroles de vie. Ésaïe témoigne ainsi de la parole de l'Éternel. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Amen. Nos prédicateurs ont choisi pour aujourd'hui, ce dimanche, ce passage de l'Évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon !» Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompit le pain. Voici donc la prédication sur ce texte, préparée par Jean-Pierre. Dieu existe, je l'ai même rencontré. Lorsqu'André Frossard, journaliste, chroniqueur à l'Aurore et au Figaro, académicien, résistant emprisonné à Montluc, publia en 1969 ce livre autobiographique, il eut un immense succès avec plusieurs éditions internationales. Ce succès était parfaitement justifié. En effet, André Frossard était le fils du premier secrétaire général du Parti communiste français et lui-même raconte qu'il a grandi dans un athéisme où la question de l'existence de Dieu ne se pose même pas. Sa rencontre avec Dieu, je cite, « C'était comme si je rentrais dans un platane. » Voilà qui, d'une certaine façon, fait écho au texte de Luc que nous venons d'entendre. Là aussi, il s'agit de rencontre. Et quelle rencontre ? Celle de Jésus, celle de l'Esprit, rencontre vécue à hauteur d'homme, mieux, à vérité d'homme. Je voudrais placer cette expérience vécue par les disciples d'Emmaüs, vécue par des hommes, au centre de notre méditation, au-delà de toute considération théologique. Avant toute approche plus précise du texte, il est indispensable de fixer quelques repères chronologiques qui permettent de mieux appréhender les étapes qui débouchent sur ce texte. Les années 30, celles du ministère de Jésus en Galilée et de la mort sur la croix. Le récit qui en est fait alors est purement oral. C'est la tradition orale qui va en témoigner, le transmettre et l'amplifier. Seconde étape, les années 50. L'apôtre Paul, par ses lettres, propose une perception purement chrétienne des événements des années 30. Jésus le Christ en est le centre. Oui, affirme Paul, Jésus est bien le Messie attendu et annoncé par les prophètes. Ainsi prend naissance une rupture entre ce qui n'est encore qu'une secte chrétienne et la tradition juive. Troisième étape, les années 70, celle de l'écriture probable de cet évangile de Luc. Les évangiles, en étant écrits, confortent tout ce qui concerne la vie et la mort de Jésus, et en particulier cette notion de Messie, annoncée par les prophètes. Après ce préalable chronologique et historique, nous voici en présence de la nature profonde de ce récit d'Emmaüs. Il s'agit bien d'une rencontre, celle bien sûr des disciples et de Jésus, mais plus encore la rencontre que les hommes font de Dieu, le tout autre. C'est une rencontre vécue à niveau d'homme, et le récit que fait Luc de cette aventure permet deux lectures différentes, voire divergentes. Première lecture. L'aventure des disciples d'Emmaüs semble claire, évidente, sereine. C'est le récit simple d'en aller, puis après Emmaüs, d'en retour à Jérusalem. La tradition situe Emmaüs à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Au cœur du circuit, le repas partagé constitue le point d'orgue de cette aventure unique. Cette impression d'évidence est aussi confortée par les nombreux éléments de type explicatif qui tous visent à rendre claires et convaincantes les paroles échangées. Une veine pédagogique irrigue donc le passage et le rend limpide. Ainsi, la prise de parole de Jésus, le mystérieux compagnon de voyage qui, je cite, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Enfin, l'évidence de ce récit est bien sûr issue à quelque chose de profond, d'essentiel, qui irrigue du début à la fin tous les moments du périple. La foi malmenée, mais présente, de ces deux hommes. Selon les mots de Luc, ils avaient foi en Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole. Puis le repas partagé à Emmaüs, le pain rompu sur leurs yeux, témoigne d'une foi retrouvée et lumineuse. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ainsi, nous recevons cette découverte première du texte comme positive, apaisée. Les disciples d'Emmaüs, s'ils ont connu questionnement et inquiétude, possèdent en eux toute la force de la foi. Pourtant, en même temps existe une autre lecture, une seconde lecture qui diffère sensiblement. Nous voici en effet en présence d'hommes, riches de leurs certitudes, mais aussi confrontés à leurs limites, à leur incapacité à voir, entendre, comprendre. D'abord un sentiment d'échec et d'impuissance, sentiment d'échec de s'être trompé, fourvoyé. Jésus, le Nazaréen qui devait libérer Israël, vient de mourir sur la croix comme un voleur. Maintenant, que faut-il faire? Que faut-il espérer? Ensuite, une incompréhension totale. Comme les autres disciples présentés dans les évangiles, ils n'ont pas su comprendre les messages de Jésus concernant la propre mort et la résurrection. D'où l'apostrophe sévère de Jésus. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous pouvons facilement faire nôtre cette critique adressée aux disciples d'Emmaüs et la rendre actuelle. Enfin, le repas partagé, au cours duquel en un instant tout est renversé, transformé, vécu dans la lumière éclatante d'une vision. À l'instant où ils le reconnaissent enfin, il disparaît de leur vue. Un bouleversement pour une vision fulgurante, une expérience vécue, unique, qui ne se prolonge pas. Ainsi, ce récit et la double lecture que nous en avons faite nous conduit à l'essentiel, la présence de Dieu. Comment percevons-nous la présence de Dieu au quotidien de notre vie? À chacun de nous, il peut être donné de la percevoir, de la recevoir. Le récit de Luc comporte une indication qui détermine tout. La présence de Dieu est perçue lorsque ces hommes identifient un signe fort, la scène. Il prit le repas, le rompit et le leur donna. Le signe donné par le Seigneur est au cœur de cet instant. Renversement total. Les disciples qui jusque-là n'avaient rien vu ni rien compris reprennent la route de Jérusalem dans l'enthousiasme et la joie de la foi retrouvée. Un signe, seulement un signe rapide et fugace. Mais la lumière que Dieu donne existe en permanence. À tout moment, elle peut être un signe de notre vie. Pour certains, à l'exemple de ce que vivent les gens d'Emmaüs, c'est un instant lumineux, éblouissant, un moment où l'on sort du doute, du désarroi, de la souffrance, un moment où tout s'éclaire. André Frossard l'a vécu à l'âge de 20 ans, dans une église de Paris. Une silencieuse et douce explosion de lumière. Cette lumière que je n'ai pas vue avec les yeux du corps, c'était une lumière spirituelle, comme une lumière enseignante et comme l'incandescence de la vérité. 3 siècles auparavant, la nuit du 23 novembre 1654, Blaise Pascal, l'immense homme de science, écrivain, philosophe, théologien, témoignait lui aussi de cette rencontre fulgurante avec Dieu. C'est le mémorial. Le texte a été trouvé dans la doublure de son vêtement au moment de sa mort. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Pour certains, c'est donc une forme d'évidence qui s'impose. Pour d'autres, non. Le signe attendu, espéré, reste caché, voilé, invisible, absent. Dieu est là, mais nous sommes incapables de percevoir le signe de sa présence. On lit plutôt son absence. Peur, désillusion, amertume, silence. Au terme du cheminement que nous venons de suivre, une tâche est confiée à chacun de nous en toutes circonstances. Avoir les yeux et le cœur ouverts, prêts à voir, écouter, entendre. Apprendre à lire différemment, autrement le monde qui nous entoure. Et celui qui est en nous. Et puis parfois, peut-être, se remettre en cause, basculer dans un choix inédit, imprévu, inattendu, où tout prend soudainement sens, parce qu'un signe nous a été donné, parce qu'une lumière est là, celle de l'Esprit-Saint. Encore faut-il que cette lumière soit forte, suffisamment forte pour la percevoir. Me revient alors à l'esprit ce passage du premier livre des Rois. Élie, le prophète du Seigneur, est pourchassé par les adeptes de Baal. À bout de force, il attend la parole du Seigneur qui lui donnera la force d'avancer. Celle-ci n'est pas dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais, dit le texte, dans le calme d'une voix ténue. Aujourd'hui, il est donné à chacun de nous d'entendre cette voix ténue. Amen.
Stelle dein Haus, bestelle dein Haus, denn du willst stellen und nicht mehr ich träume. Denn du willst stellen, denn du willst stellen und nicht leben ich und nicht leben ich träume. Denn du willst stellen und nicht leben.
Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu. Chaque jour, il crée l'univers à nouveau. Il a mis en nous sa lumière, elle nous fait grandir et nous rend libres. Par cette création, chaque jour, il donne à l'homme un présent et un avenir. Chaque jour, il donne un sens à notre vie. Chaque jour, il donne à l'être humain et à la terre entière une espérance. Chaque jour, il nous ressuscite. Nous croyons que Jésus, le Christ, nous donne à entendre sa parole, la parole. Christ est celui que nous écoutons et qui témoigne d'un Dieu d'amour. Nous reconnaissons une assemblée qui unit tous les croyants en Christ. Elle existe par-delà les églises humaines, par-delà les frontières religieuses. Nous savons que nous devons témoigner et agir. Par la force de l'amour, de son amour, il nous guide sur le chemin de la vie. Amen. Voici maintenant le moment de l'offrande. L'offrande est un des gestes concrets pour exprimer notre foi. Car donner éclaire notre engagement au service de Jésus-Christ dans son Église. Vous pouvez envoyer vos dons à notre adresse de boîte postale que vous trouverez sur notre site ou bien chez notre trésorier. Vous pouvez prendre contact avec nous pour l'adresse. Également mettre en place un virement ou faire un don par le biais de notre site. Que notre don soit joyeux. Alléluia pour chacun de nos dons. Amen. Ce culte est donc préparé ce matin, comme je le disais au début, par deux de nos prédicateurs, Jean-Pierre et Olivier, que je remercie beaucoup pour ce temps de culte. Je suis moi-même en congé toute la semaine prochaine. Il n'y aura pas de méditation jeudi prochain et vous pouvez relire celles qui sont disponibles sur le site depuis 6 semaines maintenant. Dimanche prochain, il y aura bien toujours le culte à écouter ou à lire. Et cela sera fait cette fois-ci par Jean-Marc, un autre de nos prédicateurs, que je lirai également. Je lirai le culte de Jean-Marc aussi dimanche prochain. Merci à Frédéric qui prend le relais pour les publications des cultes sur le site en ce moment. Pour la musique, vous avez entendu une cantate de Bach, la BWV 106 avec Vox Luminis. Actuellement, nous ne savons pas quand nous pourrons nous retrouver au temple pour les cultes et pour nos activités. D'ici là, vous pouvez bien sûr continuer à suivre nos méditations et nos cultes et nous gardons le contact par mail, par téléphone. Je voudrais à ce propos dire un grand, grand, grand merci à la dizaine de paroissiens qui s'engagent chaque semaine à appeler différents paroissiens parmi nous pour discuter, pour échanger, pour passer un moment de fraternité ensemble. Ce sont des temps très importants et je reçois de nombreux retours extrêmement positifs de ces appels. Merci donc à vous. Et certains d'entre vous même lisent les méditations ou les cultes aux paroissiens qui n'ont pas d'accès Internet. Et là aussi, cette initiative est très appréciée. Merci encore. Je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, tu as mis en chacun de nous une parcelle de ta lumière. Rends-nous simples et lumineux. Fais-nous agir conformément à ta parole en toute humilité. Nous avons des yeux, fais-nous voir. Nous avons des oreilles, fais-nous entendre. Nous avons un cœur, fais-nous aimer. Ne nous laisse pas sur le bord du chemin. Aide-nous, comme les êtres imparfaits que nous sommes. Fais-nous grandir et rappelle-nous tous les jours que nous sommes responsables de cette parcelle d'éternité que tu as mise en nous. Que ta parole libre nous engage et nous conduise. Et nous voici maintenant unis dans cette prière que tu nous as toi-même donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'envoi et la bénédiction. L'envoi est donné par une parole de Jérémie. Béni soit celui qui s'appuie sur le Seigneur. Il sera semblable à l'arbre qui est planté près des eaux et qui pousse des racines vers le fleuve. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sa lumière. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous. Il nous donne sa force. Il nous donne sa paix. Amen.
Oh,
Très bon dimanche à tous et belle semaine. Soyons en paix, le Seigneur est notre force.